Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous entamons, nous faisons un message, je vous apporte un message tiré de 1 Timothée 6, intitulé « Le retour au travail, comment faire face ?» Le retour au travail, comment faire face ? Alors, bien sûr que le sujet tombe vraiment bien pour plusieurs raisons. J'ai aujourd'hui, et j'aimerais vraiment l'annoncer publiquement, un respect doublé ou triplé pour mon épouse. Parce que, figurez-vous, ça fait presque 2 semaines que je suis orphelin. Mon épouse est partie aux États-Unis amener ma fille et mon fils, mais surtout ma fille, à l'université. Et donc, elle revient mardi. Et donc, James et moi, on est tout seuls depuis maintenant presque 2 semaines. Et alors, c'est vraiment intéressant d'être tout seul. J'ai un respect pour les parents monoparentaux aujourd'hui que je ne pense pas que j'avais avant. Parce qu'en plus de mon travail, parce que le travail continue, eh bien, j'ai dû, avec James, faire tout le reste. D'accord ? On a dû aller faire des achats, par exemple. Cuisiner. Alors ça, c'était vraiment marrant. D'accord ? Et en plus, il faut quand même dire que mon épouse a laissé des plats dans le congélateur. Elle est super. Hein, elle a tout laissé. Mais juste de s'organiser, c'est compliqué. Faire une salade, c'est pas toujours facile, vous savez. Il fallait aussi arroser les plantes et les fleurs. Ça, on en a, je crois, tué 2 ou 3 quand même. Hein. Fallait faire la vaisselle. On a la vaisselle, mais il faut s'organiser. Puis ensuite, il faut sortir les assiettes de la vaisselle et ranger avant de mettre les nouvelles. Ça aussi, on s'est un petit peu raté quelquefois, d'accord ? Ensuite, on a dû faire la lessive. La lessive. Il faut trier le blanc, le non-blanc, chaud, pas chaud. C'est aussi pas toujours facile. Il y a les poubelles. Il y a le nettoyage, parce qu'on a eu aussi un problème de plomberie chez moi, et donc j'ai dû faire appel au plombier, puis il y avait de l'eau partout. Alors j'ai dû aussi en plus tout nettoyer, la chambre où on fait la lessive. Alors ça aussi, c'était toute une organisation pour moi, d'accord ? En plus, bien sûr, j'ai dû passer du temps sympa avec James. Donc on est partis s'amuser les deux, c'était super sympa aussi. Il y a la voiture et les voitures, il y a de l'essence à mettre. Enfin bref, j'ai commencé à réaliser peut-être mieux que je l'avais réalisé avant, tout le travail que mon épouse fait, en parallèle du mien, bien sûr. Et je me suis dit, mais d'être parent monoparental avec des petits-enfants, franchement, cela va parfois être la galère. Et là, c'était vraiment quelque chose, et je remercie le Seigneur pour cette opportunité d'avoir pu juste simplement goûter un petit peu ce que ça doit être. Et j'arrive pas à imaginer cela semaine après semaine après semaine, mois après mois. Travail et tout le reste. Et moi, il y a un moment, ça m'a quand même fait rigoler parce qu'à un repas, finalement, je suis monté de mon bureau parce que mon bureau est à la maison vers les 12h30. Puis James et moi, on s'est regardé. Puis j'avais complètement oublié qu'il fallait manger. Et donc, il fallait qu'on s'organise. Quoi. On n'avait rien sorti du congélateur. Alors, je sais pas, on a mangé des yaourts ou je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on s'est complètement loupé sur des repas. Donc, il faut toujours anticiper, quoi. Il faut anticiper. Et puis ce matin, j'étais tellement aussi, j'avais tellement de choses à faire que je sors la voiture du garage. J'oublie de mettre le frein à main. En allant refermer la porte du garage, la voiture, elle commence à rouler. Je me dis, John ! Alors, bien sûr, je cours vers la voiture et je mets le frein à main. Puis je me suis dit, mais ça doit être comme ça. Il y a tellement de choses à faire, on oublie les petites choses hyper importantes que mettre le frein à main dans une voiture. D'accord ? Voilà. Le travail. C'est la fin des vacances. Je suis désolé d'annoncer. La rentrée est là. Les enfants ont ou vont commencer l'école. Les jours se raccourcissent. Les nuits se rafraîchissent. Les bronzages s'efface. Et la perspective de devoir reprendre son travail pendant toute une année avant les prochaines longues vacances est là. Oui, c'est du concret. Inéchappable. Le retour au travail, comment faire face? Alors, bien sûr, il y a plusieurs attitudes vis-à-vis du travail. D'accord? Je ne sais pas où vous situez dans ces attitudes. Certains déplorent le travail. Ils sortent. Ils sont très négatifs par rapport à leur travail et donnent l'impression que s'il était possible, le travail devrait être évité à tout prix. Et bien sûr, ces gens-là travaillent toujours trop. C'est toujours difficile. Deuxième attitude, d'autres tolèrent le travail, mais le considèrent une nuisance obligatoire, une manière affreuse pour gagner sa vie. D'autres encore se résignent dans leur travail. Je dois travailler, point à la ligne. Métro, boulot, McDo, dodo. Le travail, c'est ça. Je bosse, je rentre, je dors, je me lève. C'est un cycle infernal. Je dois, je fais. Mais d'autres encore aiment à folie leur travail. Peut-être c'est simplement qu'ils aiment ce qu'ils font, ou simplement, et c'est là où on va aller ce matin, peut-être comprennent-ils le sens du travail, le sens biblique du travail. Et donc, eux voient le travail, alors je mesure mes mots, comme une fête. Ils veulent presque fêter le travail parce qu'ils voient dans le travail quelque chose de vraiment positif et bien au-delà simplement de gagner un salaire. Alors c'est ce que j'aimerais faire ce matin, c'est d'essayer de nous encourager dans cette reprise du travail et nous montrer la perspective biblique sur le sujet. Alors bien sûr, nous sommes dans la suite de notre étude de 1 Timothée, ça tombe vraiment bien, nous allons examiner les versets 1 et 2 du chapitre 6, d'accord ? 1 et 2 du chapitre 6, le sujet, c'est le sujet des maîtres esclaves à l'époque, et on va faire le lien avec le travail, je vais vous montrer comment. Alors on va lire 1 Timothée 6, 1, « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. » Alors, juste avant de faire le lien avec le monde du travail d'aujourd'hui, regardons juste brièvement le contexte et essayer de comprendre le contexte qui est l'esclavage, d'accord ? Donc là, il faut reculer 2000 ans, parce qu'il dit au verset 1 que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, et la traduction est tout à fait ça, esclavage, doulos, on parle vraiment d'un esclave comme on peut se l'imaginer. Alors il parle d'un joug de l'esclavage, lorsque vous voyez des bœufs attachés ensemble par un joug, vous savez que ces bœufs sont au service de leur maître et ils sont esclaves si vous voulez, car ils n'ont pas grand chose à dire, ils doivent faire ce qu'on leur demande de faire. Et ici Paul s'adresse à des esclaves chrétiens qui se trouvent à l'intérieur ou dans l'église à Éphèse. Il faut savoir qu'environ un tiers de la population de l'Empire romain était composée d'esclaves. Alors il y avait des esclavagistes durs et il y avait des esclavagistes qui étaient bons et justes. Alors bien sûr, il y avait beaucoup d'esclaves et c'était toujours une crainte pour Rome. Parce que si ces esclaves pouvaient s'organiser et se rebeller, eh bien cela aurait pu faire couler Rome. Et voilà pourquoi il réprimait avec une force impitoyable toute rébellion d'esclaves contre l'État. Alors il y avait, comme je disais, des esclaves qui devinrent amis avec leur maître, jusqu'au point d'être libérés, d'autres qui ont été vraiment traités avec une grande injustice. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'arrivée du christianisme dans l'Empire romain, les répercussions étaient incroyables. Première chose que nous constatons en lisant les épîtres de Paul, c'est que les églises du 1er siècle étaient littéralement remplies d'esclaves. Les esclaves sont mentionnés dans 8 des épîtres du Nouveau Testament. Alors certains disent, mais pourquoi est-ce que Paul n'a pas condamné formellement l'esclavage ? Il y a des gens qui se posent la question, parce qu'il n'a jamais formellement condamné l'esclavage. Il y a peut-être 2 raisons. Premièrement, s'il avait prêché la révolte, cela aurait servi à quoi ? Une révolte d'esclaves chrétiens, cela aurait provoqué un bain de sang. Donc c'était pas, bien sûr, son idée de provoquer un bain de sang, parce que Rome aurait réprimé cela. Alors Paul, et c'est là où le Nouveau Testament et la parole de Dieu est tellement révolutionnaire, Paul, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, suggère qu'on peut changer le système depuis l'intérieur en commençant par les cœurs des individus. Si le cœur d'un esclave et le cœur d'un maître deviennent rachetés par Jésus-Christ, leur perspective sur l'esclavage changerait tôt ou tard. Et cette révolution, c'est comme maintenant Paul préconisait que l'esclave doit honorer son maître et que le maître traite bien son esclave. Ça, c'est bien plus révolutionnaire que de prêcher la rébellion. Et avec comme un peu de levain fait lever toute la pâte, eh bien, tôt ou tard, l'Empire romain serait contaminé par cet évangile quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que la pratique de l'esclavage, un jour, s'est arrêtée. Donc, le Seigneur a été honoré par ce qui s'est passé. Alors, les questions, est-il applicable, le contexte de l'esclavage, au monde d'aujourd'hui, au monde du travail d'aujourd'hui? Alors, bien sûr, on sait très bien qu'il y a certaines situations dans le monde d'aujourd'hui qui sont presque comme l'esclavage. Des gens vraiment sont abusés dans le monde du travail. Malgré l'injustice de certaines situations, comme dans le Nouveau Testament, rappelons-nous que nulle part dans les Écritures, la révolution est-elle préconisée pour gagner la liberté économique, sociale ou politique. Au contraire, la Bible souligne tout simplement la responsabilité de l'esclave et du maître l'un vis-à-vis de l'autre, selon la perspective de Dieu. Alors, je crois que c'est très important. Il y a deux grandes différences entre le monde du travail d'aujourd'hui et le monde de l'esclavage à l'époque. Numéro un, aujourd'hui, en tant que travailleur, on est rémunéré. On est rémunéré, c'est quand même pas rien. Les esclaves étaient rarement rémunérés, certains certes, mais la plupart pas. Et deuxième grande différence, c'est la liberté. Un travailleur aujourd'hui a la liberté de quitter son emploi. Un esclave n'avait pas la liberté de quitter son esclavage. Alors c'est intéressant quand même que dans 1 Corinthiens 7 et un petit verset, verset 21, Paul dit toutefois ceci, « Que chacun demeure dans l'état où il était appelé lorsqu'il était appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Il dit à l'esclave, écoute, si t'es esclave, t'es esclave, il faut l'accepter. Mais non, si tu peux, d'une manière juste et équitable et légale, te libérer, ben fais-le. Mais si c'est pas possible, alors t'es coincé et tu es obligé maintenant d'appliquer les principes bibliques à ton égard. La grande différence, c'est que nous, en tant qu'employés, en tant que travailleurs, on peut quitter notre travail. Donc les principes qu'on va voir sont d'autant plus applicables à nous qui pouvons quitter notre travail qu'à quelqu'un qui était coincé dans son travail, peut-être pour le reste de sa vie. Donc ces deux choses sont très importantes à noter. Alors, devenons maintenant pratiques dans le monde d'aujourd'hui, d'accord? Comment faire face au retour au travail? Eh bien, pour faire face à ce retour au travail avec sérénité et joie, il faut comprendre trois choses, trois perspectives capitales concernant le travail. Nous allons regarder vite, dans le temps que nous avons, la perspective du Créateur sur le travail. Deuxièmement, nous allons voir la perspective du travailleur sur le travail. Et troisièmement, nous allons regarder la perspective de l'employeur sur le travail, d'accord ? Alors bien sûr, il y a beaucoup de matériel, on va assez vite, ça va être un survol, mais j'espère que ça va être très intéressant et aussi très pratique. Alors voyons premièrement la perspective du Créateur. On n'est pas encore dans 1 Timothée 6.1, d'accord ? Mais vous allez comprendre. Quelle est la perspective du Créateur ? Quelle est la perspective de Dieu sur le travail ? En fait, la vraie question est celle-ci, pourquoi travaillons-nous ? Pourquoi faut-il travailler? C'est quand même une question intéressante, puisqu'on passe beaucoup d'heures à travailler chaque jour. Eh bien, premièrement, la Bible donne trois raisons. Premièrement, le travail était donné à l'homme pour son bien-être personnel. Vous avez pas mal lu, c'est absolument vrai, d'accord? Vous rappelez, au début, Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme et la femme. Et dans Genèse 1, 29, nous avons ceci. Dieu dit à Adam, « Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, en portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dieu pourvoit totalement à leurs besoins de nourriture. Ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin de travailler pour manger dans le jardin d'Éden. Or, Genèse 2,15 dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. » Alors c'est quand même intéressant, je trouve. Dieu pourvoit tout. n'y a pas encore le péché, Genèse 3, mais Dieu met Adam au travail. Cultiver le jardin et pour le garder. Et en plus, Genèse 2:19, Dieu donne à Adam le travail de nommer tous les animaux. Alors, question, pourquoi Dieu donne-t-il ce travail à Adam, puisque Dieu lui a déjà donné tout dont il avait besoin pour s'en nourrir? Il n'avait pas besoin de travailler. Eh bien, la réponse est celle-ci, pour son bien-être personnel. Il y a quelque chose de bien en soi dans le travail, quelque chose de noble. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Le travail que tu fais, que tu sois avocat, ou banquier, ou fabricant de pièces dans une usine, ou docteur, ou informaticien, ou infirmière, ou boulanger, ou enseignant, ou professeur, ou éboueur, ou jardinier, ou femme au foyer, ou berger, ou agriculteur, ou botaniste, ou scientifique, ou plombier, ou secrétaire, ou ingénieur, ou pasteur. Hein ? Ou pasteur, d'accord ? Le travail que tu fais en lui-même est un don de Dieu pour ton bien-être personnel. C'est super, je trouve. Voilà une des raisons pourquoi le chômage est tellement dévastateur, tellement difficile à vivre. Car sans travail, notre bien-être personnel souffre. Ecclésias 3:22, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. La Bible dit, on a le droit de se réjouir dans nos travaux. C'est un privilège que Dieu nous donne. Alors bien sûr, nous savons que le péché est arrivé dans Genèse 3, il y a eu des conséquences à ce péché dans le monde du travail. Vous vous rappelez que lorsque maintenant Adam cultivait le jardin, ben, il y avait des épines et des ronces, il y avait la sueur de son front. Et donc, à partir de Genèse 3, le travail est devenu plus difficile. L'homme, aujourd'hui, ne tire pas autant de plaisir dans son travail qu'avant la chute. Il y a maintenant des frustrations, de la fatigue, du ras-le-bol, une certaine perception de vanité dans notre travail. Donc, ces jours où vous dites, ouais, c'est super, je peux aller au travail et remercier le Seigneur, et les jours où vous avez vraiment ras-le-bol, vous dites, ah, ça, c'est la conséquence de Genèse 3, le péché. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous a donné le travail, pas seulement le bien-être personnel, mais le bien-être de la société ou de la communauté. C'est intéressant ça aussi. Est-ce que Adam a cultivé le jardin que pour lui ? Non, pas que pour son plaisir personnel, mais aussi pour sa famille. Pour sa famille. Tout au travers de la Bible, la productivité du travail est liée aux besoins de la société. Dans Éphésiens 4:28, il est dit « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » On travaille pour gagner quelque chose, en partie pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Alors, que ce soit simplement de donner une partie de notre revenu pour les aider, c'est une possibilité, mais aussi penser, et ça c'est très important, votre travail, ce que vous faites aide quelqu'un. Pose-toi la question, ton travail, qui aide-t-il? Hein, si vous pourvoyez un produit pour quelqu'un, vous aidez cette personne avec ce produit. Dans la société où vous êtes, le but de cette société, bien sûr, c'est de se faire de l'argent, mais c'est aussi produire un service ou quelque chose à quelqu'un. Donc vous aidez la société avec votre travail. C'est un service public. Et donc ça, c'est capital pour le chrétien de réaliser qu'il ne travaille pas pour lui seulement, mais pour quelqu'un d'autre. Jésus nous a dit, dans le deuxième grand commandement, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre vie, en partie, est là pour aider les autres, et notre travail rentre dans cela. Cette idée de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et ça, ça va vous aider énormément dans votre perspective du travail. Je suis là pour aider quelqu'un dans ce que je fais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite condamner les riches, ça on en parlera sur la série sur l'argent, car ce sont souvent les riches qui pourvoient des emplois pour les moins riches au bénéfice de la société. Il y a un juste équilibre, et souvent, les problèmes arrivent aux mobiles, mais ça on en parlera plus tard. Donc, le travail était donné, deuxièmement, pour le bien-être de la communauté. Troisièmement, le travail était donné à l'homme pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, « Si donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, pourquoi ? La gloire de Dieu. » La gloire de Dieu. Posez-vous cette question. Lorsque vous travaillez, est-ce que vous travaillez pour un salaire ? Alors, répondez pas trop vite. Bon, oui, d'accord. Vous travaillez pour un salaire, on est d'accord. Okay ? On a le droit de travailler pour un salaire, c'est très bien, d'accord ? Mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce que vous travaillez que pour un salaire ? Non. Non. Le but ultime, selon 1 Corinthiens 10, 31, c'est que nous travaillons pour la gloire de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu, car c'est sa volonté qu'en travaillant, nous travaillons pour le plaire ou lui plaire. Nous glorifions Dieu lorsque nous avons la perspective de Dieu sur notre travail et que nous mettons en pratique les prescriptions de Dieu concernant le travail. Si vous n'avez pas encore été voir, je ne fais pas de la pub, mais c'est un musée incroyable, il faut aller voir le musée Patek Philippe à Genève. Au troisième étage, vous avez des montres incroyables. Eh bien, il y a une petite enseigne qui parle du fait que ce sont les Huguenots français qui ont été chassés de la France lors des persécutions, qui ont amené l'horlogerie, en fait, ici à Genève, et qu'ils ont travaillé, ils ont créé des montres pour la gloire de Dieu. Ils voulaient faire tout ce qu'ils faisaient, mais vraiment le top du top pour la gloire de Dieu. L'excellence. Nous devons nous poser la question, est-ce que je travaille à la gloire de Dieu ? Est-ce que je fais ce que je fais le mieux que je peux, pas pour mon salaire uniquement, mais pour glorifier Dieu ? Et ça change toute la perspective aussi sur notre travail. Donc ça, c'est la perspective de Dieu, du Créateur. Passons maintenant à la perspective du travailleur. Alors, ça devient vraiment concret. Tous les jours, ça commence demain, d'accord ? Demain. Quelle est la perspective du travailleur ? Vous êtes le travailleur. Alors bien sûr, je parle à une église, donc j'assume, je me dis, vous êtes des chrétiens. Alors voici, puisqu'il écrit à des chrétiens à Éphèse, quelle est la perspective d'un travailleur chrétien vis-à-vis de son travail ? D'accord ? Alors il y a deux cas de figure. Ou bien vous travaillez vous-même en tant que chrétien pour un chrétien, ou vous travaillez pour un non-chrétien. Votre patron est un chrétien ou est un non-chrétien. Il n'y a que ces deux possibilités, d'accord ? Alors on va commencer avec vous êtes chrétien, et vous travaillez pour un patron non-chrétien. D'accord ? Quel est votre rôle ? 1 Timothée 6, 1. Alors il y en a 8, d'accord ? Il y a 8 rôles. Numéro, disons, lisons le verset déjà. « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. » Alors, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître. Alors, premièrement, enfin, le premier point, la première responsabilité d'un travailleur chrétien vis-à-vis d'un non-chrétien, c'est qu'il doit honorer son patron. Honorer son patron. Alors, juste le mot maître, hein, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne. Alors, c'est intéressant, le mot « maître » ici, c'est le mot en grec « despote ». Alors, peut-être certains de vous pensez que votre maître, c'est vraiment un despote, parce que dans notre perspective du mot « despote », on a l'impression que c'est un tyran. Alors, il y en a qui sont des tyrans, d'accord ? Mais l'idée à l'époque, c'était simplement que celui qui était notre patron avait le pouvoir. C'est lui qui décidait. Ce maître pouvait être bon ou mauvais, mais c'est lui qui avait la décision finale. C'était lui le responsable, le maître, d'accord ? Alors nous savons aussi que le verset 1 parle des non-chrétiens, parce qu'au verset 2 est ceux qui ont des fidèles pour maîtres. Donc il dit, les maîtres du verset 1 sont les non-chrétiens, les maîtres du verset 2 sont les chrétiens. Donc là on parle de notre attitude vis-à-vis de non-chrétiens. Alors premièrement, nous devons honorer notre patron. Et ici il dit qu'il soit digne de tout honneur. Et le mot honneur veut dire prix ou valeur ou estime ou respect. En fait c'est une attitude. Nous sommes appelés à honorer notre patron. Une bonne attitude vis-à-vis de lui. Continuons. Numéro 2. Le travailleur doit se soumettre à son patron. Là, il faut aller à Tite. On va regarder quelques versets, d'accord ? Tite 9. Paul écrit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses et à n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc, il doit se soumettre à son patron. Et le mot, c'est le mot upotasso qui veut simplement dire se placer en dessous de quelqu'un. Vous êtes là pas pour piétiner, pour essayer de passer par-dessus votre patron, vous devez vous soumettre à lui ou à elle. Dans Éphésiens 6, 5 et 6, c'est le même mot, mais le mot c'est obéir. On est appelé dans Tite 3 à nous soumettre aux autorités gouvernementales. C'est le même mot. Dans Jacques 4, 7, nous devons nous soumettre à Dieu. Même mot. Alors, moi j'ai pensé à quelque chose de vraiment étrange. À qui s'adresse-t-il ici ? Des esclaves. Mais est-ce que l'esclave ne devait pas, je sais pas, dans la nature même de ce qu'il était, se soumettre à son patron ? Il n'avait pas trop le choix. Alors pourquoi est-ce que Paul dit aux esclaves de se soumettre à leur patron si ça déjà d'emblée c'est une évidence ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il parle au cœur. Il dit bien sûr que vous êtes obligés de vous soumettre à votre maître, mais moi je veux que vous le fassiez de cœur, avec une bonne attitude. C'est révolutionnaire ce qu'il est en train de dire. Révolutionnaire. Trois. Le travailleur doit plaire à son patron. Plaire à son patron. Tite 2.9 encore, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toute chose. Leur plaire en toute chose. De nouveau, ce même mot plaire est utilisé dans Romains 12 et 2 Corinthiens 5-9 vis-à-vis de Dieu. Il dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Alors c'est cette attitude. Quand tu vis ta vie tous les jours et tu penses à ce que tu es en train de faire dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, et là tu sens le Saint-Esprit qui te dérange parce que tu n'es pas en train de plaire au Seigneur, dis-lui, ah Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, je veux vraiment te plaire. Même attitude que tu devrais avoir vis-à-vis de ton patron. Je veux te plaire. Imaginez, vous allez vers votre patron, le dit, vous dites, écoutez, je veux vraiment vous plaire. Comment il va réagir ? Mais il est fou celui-là ou quoi ? C'est pas habituel, disons. Mais c'est l'attitude. C'est l'attitude ici à voir. En quoi ? En quoi faut-il lui plaire ? Alors écoutez, c'est radical. En toute chose. C'est pas moi qui invente, c'est dans le texte. Alors, essayons de comprendre ce que veut dire en toute chose. C'est compliqué, t'en as marre. Ah oui, en toute chose. En toute chose. On peut essayer de faire toutes sortes de gymnastiques avec ce texte pour essayer de lui faire dire ce qu'il ne dit pas, mais c'est inutile. Toute chose veut dire toute chose. Ceci souligne l'étendue de cette injonction. Quelle que soit, écoutez bien, quelle que soit la demande du maître envers son esclave, il doit se soumettre en toute chose de cœur avec la bonne attitude à son maître. Alors si c'est vrai pour un esclave, est-ce que c'est pas vrai pour quelqu'un au travail ? Mais tu dis, mais attends, John, il n'y a quand même pas des exceptions ? Bonne question. Que faire si votre maître demandait, ou si votre employeur vous demandait, ou demandait à son esclave de mentir, ou de voler, ou de commettre un meurtre ? Qu'est-ce que je fais ? Bonne question. Regardez, Tite 2.10, ben, il dit au verset 9, « À leur plaire en toute chose, à notre point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Et voilà la clé. Voilà la clé. En tout, oui, virgule, là, faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. L'esclave doit en fait honorer son patron, son maître, mais dans le contexte de faire honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ceci implique que l'esclave doit se soumettre en toute chose, avec une exception, si ce qu'on lui demande de faire déshonore la doctrine de Dieu. Certainement, en acceptant de pécher, l'esclave ne sera pas en train de faire honorer toute la doctrine de Dieu. Donc la doctrine de Dieu prime, toujours. Alors qu'en est-il dans le monde du travail ? Bien, les choses sont pareilles. Un chrétien doit se soumettre, obéir à tout ce qu'on lui demande, à tout ce que lui demande son employeur, sauf le cas où l'obéissance déshonorerait clairement la doctrine de Dieu. Mais qu'en est-il si l'employeur est injuste, radin, mauvais, ingrat, frustrant, même despotique ? Le chrétien se soumet. Même si le salaire lui paraît être un salaire de misère, il se soumet. Tu as signé contrat. Tu peux partir si tu n'aimes pas. Tu te soumets. Et de bon cœur. Alors, il y a une petite différence, de nouveau, entre un salarié et un esclave. Si la situation devenait insupportable pour vous, il est probable que dans votre société, dans votre situation de travail, il y a des lignes de communication autorisées par la société pour faire part de son inquiétude ou même de ses griefs à son patron. Alors bien sûr, toujours avec bonne attitude. Alors si vous essayez ces lignes, peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Si le problème est tellement difficile, est-ce que c'est un prétexte à l'insoumission, à la rébellion ? Non, non, jamais. Non, parce que la doctrine de Dieu doit être honorée. Ce serait un péché de déshonorer Dieu. Dans le pire des cas, tu quittes ton travail. C'est draconien, hein ? C'est vraiment draconien. 4. Le travailleur chrétien ne doit pas contredire son patron. Tite 2.9 encore exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Alors, vous savez ce que ça veut dire ? Anti-logos en grec. Logos, ça veut dire parole, anti-contre. C'est le gars qui est contre-parole. On te dit quelque chose, tu râles. Râle, râle, non, 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 râle, 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 non. Vous connaissez des gens comme ça ? Il ne faut pas être contredisant. Alors, il y a peut-être des lignes de communication, on peut exprimer nos griefs dans ces lignes avec la bonne attitude. Mais là, il parle vraiment de quelqu'un qui a une sorte d'habitude de contre-parole. Cela parle de celui qui est grognon, qui râle, qui est mécontent, qui fait et émet continuellement des reproches envers son patron. C'est l'employé qui résiste aux ordres qu'il reçoit et qui aime disputer ou se disputer. Il rouspète et il se plaint continuellement. Et s'il pouvait, il se vengerait même. Vous savez, c'est vraiment à la mode aujourd'hui, ça. Les gens râlent pour tout. Moi, c'est l'impression qu'on a. Hein. Alors de nouveau, s'il y a un moyen légitime d'exprimer au greffe, ben, on le fait. On a le droit. Mais quand le patron décide, ben, le patron décide. Et nous, on doit avoir la juste attitude et ne jamais compromettre, bien sûr, la parole de Dieu. 5. Il ne doit pas voler de son patron. Encore Tite 2.9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur patron, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradissant, excuse-moi, verset 10, et à ne rien dérober. Lorsque le maître tournait le dos, un esclave pouvait très facilement être tenté de voler de lui. L'esclave, il peut se dire, mais franchement, mon maître m'a déjà tout volé. Il m'a volé ma vie. Il m'a tout pris. Il m'a volé ma liberté. Et moi, je n'ai rien. Lui, il a tout. Alors, on pourrait conclure, lorsque l'occasion se présente, je lui prendrai des choses pour compenser la perte qu'il m'a infligée. Alors, la logique, elle est parfaite. Mais pas biblique. Paul tranche. Exhorte les esclaves à ne rien dérober. Et le mot parle ici de petit vol. De mettre de côté pour soi-même ce qui n'est pas à soi. Ça nous rappelle le 8e commandement, n'est-ce pas ? Tu ne déroberas point. Même si dans ton esprit, c'est justifié. Pour l'employé de nos jours, le petit vol est très facile, souvent pratiqué. Quel genre de choses est-ce qu'on peut voler ? Le temps. Hein ? On est payé pour 8 heures de travail, est-ce qu'on donne vraiment 8 heures de travail ? Est-ce qu'on prend les pauses autorisées ou est-ce qu'on grignote à droite et à gauche ? des coups de téléphone non autorisés, si c'est le cas. Peut-être du temps sur Internet non autorisé, si c'est le cas, si ce n'est pas autorisé. Peut-être des kilomètres personnels qui devraient être des kilomètres de travail, ou le contraire. Bref, il y a toutes sortes de manières, des petites fournitures. En fait, je connais quelqu'un. C'était incroyable, il a travaillé ici à Genève dans une usine pendant quoi, 15, 20, 25 ans. Et pendant toute sa vie, bon, de temps en temps, il y avait un boulon, il y avait une vis, il y avait un tournevis, un truc. Bon, c'était une monstre usine à Genève. Alors, il servait, quoi, hein, comme tout le monde. Et un jour, il s'est converti à Christ. Et il a pris conscience que ce qu'il faisait était un mal. Il a lu ces versets, il s'est dit, mais moi, ça fait 15 ans que je vole des choses à mon usine. Alors, il a fait un calcul, vraie histoire. Il a fait un calcul. Je ne me rappelle plus le montant, mais il a conclu qu'il avait volé sur 10 ou 15 ans environ, je crois que c'était 2 ou 3 000 francs de petites fournitures. Donc il a fait une enveloppe, puis il est allé voir le trésorier de la société. Il dit, écoutez monsieur, ça fait 15 ans que je travaille pour cette société, je viens de donner ma vie à Christ, il a complètement changé ma vie, et là je réalise que je commets des vols depuis 15 ans et j'aimerais rembourser à la société, je crois qu'il y a même mis intérêt, je ne me rappelle plus, j'aimerais rembourser ce que j'ai pris à la société. Il m'a dit que le trésorier, il ne savait plus quoi faire. Il n'avait jamais entendu un truc comme ça dans sa vie, quoi. Il a refusé, il a dit, écoutez, nous, on n'a aucune catégorie dans notre finance, dans notre comptabilité, pour le retour de vol de pièces détachées. Moi, je ne sais pas quoi faire avec votre argent. Alors, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais j'ai trouvé l'attitude, franchement, mais géniale, quoi. Ça, c'est le fruit d'un cœur converti. Voilà, le chrétien ne doit pas voler de son patron. 6. Il doit être fidèle envers son patron. Encore Tite 2:10. Il doit ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Parfaite fidélité. Fidèle. Vous savez de quoi ça parle ce mot ? Loyauté. Loyal. Il est loyal à son patron. Son patron peut compter sur lui. Dans le monde du travail, combien est-il facile de travailler pour son employeur de mauvaise foi, en montrant aucune fidélité. Il est facile de se laisser tenter par les pensées, par les collègues aussi, hein, qui se disent « La société pour laquelle je travaille est nulle. Les directeurs sont les nuls. Pourquoi devrais-je faire un effort pour de telles personnes ?» Cette attitude est un péché. L'employé chrétien, malgré tous les problèmes que peut avoir son employeur, et il y a des problèmes, hein, je ne minimise pas les difficultés, les problèmes au travail. Mais à un moment donné, il y a une juste attitude. Il faut être fidèle. Éphésiens 6, 5, numéro 7, nous donne en plus, je ne sais pas comment on peut réarranger ces versets, hein. Éphésiens 6, 5 dit... Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait le bien. Ah, je trouve ça vraiment génial. Il dit, non seulement doit-on obéir à nos patrons, mais pas seulement sous leurs yeux. C'est très facile. Quand on nous regarde, ah, on fait tout bien. Mais quand ils ne regardent pas, c'est une autre histoire. C'est la définition même de l'intégrité. L'intégrité, c'est qu'on fait, lorsqu'on est seul, ce qu'on fait lorsqu'on nous regarde. L'hypocrisie, c'est le contraire. On fait une chose quand on me regarde, et je fais autre chose quand on ne me regarde pas. Là, il appelle à l'intégrité. On doit obéir à son patron, qu'on nous regarde ou pas. Alors vous dites, ouais, mais John, franchement, tu comprends vraiment pas, quoi. Tu comprends pas ma situation. Mon patron, John, si tu le connaissais, franchement, là, il est tellement difficile. John, tu ne comprends pas. 8e dernier point, il doit... accepter son patron, même s'il est difficile. 1 Pierre 2:18, je trouve vraiment génial. Dit ceci, serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Tu dois accepter ton patron même s'il est difficile. C'est ce qu'il dit. Même s'il est difficile. N'oublions pas que l'esclave n'avait aucun autre choix. Nous, on a des choix. Lui, aucun. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça? C'est quand même une liste incroyable. Eh bien, Timothée 6, 1 nous donne la raison. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et oui, le monde, écoutez, regarde attentivement à ceux qui se disent chrétiens. Si tu t'es affiché à ton travail comme chrétien, ils te regardent. Et ils veulent voir. Est-ce que la vie d'un chrétien est vraiment différente que la vie d'un non-chrétien? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Est-ce que la vie chrétienne est bénéfique à quelque chose? Ou est-ce que c'est une belle théorie? Est-ce que ça change vraiment la vie, l'attitude, le cœur, la manière que je fais ce que je fais dans la vie? Parce que si la vie chrétienne n'est pas différente que la vie du monde, à quoi ça sert? On perd notre temps. Mieux vaut faire la grâce matinée le dimanche matin, je trouve. Non, la vie du chrétien aura ultimement un effet sur les non-chrétiens. L'esclave chrétien, par son comportement, fera honorer la parole de Dieu et Dieu lui-même, qui à la longue aura un effet sur leur maître et sur la société. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'Empire romain. Et on peut résumer en fait l'effet de notre vie sur la société dans Matthieu 5, 16, qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Votre attitude, votre comportement au travail pourrait amener d'autres personnes au Seigneur. Parce qu'ils vont regarder, ça, ils vont dire « Lui, il est vraiment différent, quoi. Là, il y a des trucs que je comprends vraiment pas. Tiens, pourquoi tu es tellement différent, toi ? Ah, parce que Christ a changé ma vie. » Alors, passons très rapidement juste à un deuxième petit point vis-à-vis d'un patron chrétien. Ça, c'était un chrétien qui travaillait pour un patron non chrétien. Qu'en est-il si ton patron est chrétien? Eh bien, si ton patron est chrétien, il y a déjà toute la liste qu'on vient de voir, plus deux. D'accord? Plus deux. Ça, c'est le verset 2 de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, 2 dit ceci. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, donc Paul écrit aux esclaves dans l'église chrétienne, qui disent, ah, vous avez-vous un maître chrétien qui est peut-être dans la même église? Alors ça, c'est un autre truc vraiment radical. Parce qu'il pouvait y avoir des esclaves et des maîtres chrétiens, les deux dans la même église, parce qu'ils étaient convertis, ceux-là. Alors voilà, maintenant ton cas de figure, est-ce que tu es un chrétien qui travaille pour un patron chrétien? Quelle est ton attitude? Les huit trucs, plus deux, il ne doit pas mépriser son patron. Verset 2, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Il ne faut pas les mépriser. Alors pourquoi vous les méprisez? Pourquoi est-ce que si tu étais un esclave chrétien, tu mépriserais ton patron chrétien ou ton maître chrétien? Bien pour la simple raison que vous pourriez vous dire, mais c'est injuste, c'est injuste. Je suis chrétien, mon maître est chrétien, s'il était vraiment chrétien, il me libérerait. Et il ne me libère pas, donc je le méprise. La logique est parfaite. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Ne le méprise pas. Dieu doit travailler son cœur comme il doit travailler ton cœur. Intéressant, non? Et dixième chose à faire, c'est ce qu'il dit là, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Il dit, si ton maître est chrétien, sers-le d'autant mieux. D'autant mieux. Pourquoi ? Parce que vous êtes membre de la même famille, c'est ton frère en Christ. Si ton maître est chrétien, tu devrais le servir pas à 100%, mais à 110%. 110%. Alors, on termine avec un dernier point. Parce que peut-être que vous n'êtes pas employé, mais vous êtes employeur. Peut-être vous êtes maître. Alors, c'est quand même intéressant de passer quelques minutes et se poser la question, ben, si je suis un maître chrétien, quelle est mon attitude à avoir ? Comment est-ce que moi je dois gérer, bon, à l'époque mes esclaves, mais aujourd'hui mes travailleurs ou mes employés chrétiens ? D'accord ? Ou non chrétiens ? Alors regardez, ça va assez vite. Allez avec moi à Colossiens 4.1, d'accord ? Voici la perspective de l'employeur. Je suis un employeur. Comment, moi, est-ce que je dois anticiper le retour à mon travail ? Comment dois-je, moi, gérer ceux qui travaillent pour moi ? D'accord ? Alors, Colossiens 4.1 nous dit la chose suivante. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Premièrement, l'employeur chrétien doit être juste envers ses employés. C'est ce qu'il dit. Et c'est quoi la justice ? La justice, c'est simple, c'est de récompenser le bien et punir le mal. C'est d'être juste. Le maître chrétien doit donner des directives claires et récompenser un travail bien fait et punir un travail mal fait. Ça, c'est la justice. Donc, il faut être juste. Soyez juste avec vos employés. Deux. Il doit être équitable envers ses employés. C'est ce qu'il dit encore au verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Équitable. Il ne faut pas traiter d'une manière différente vos employés. Il ne faut pas traiter un d'une manière et l'autre d'une autre manière. C'est comme d'ailleurs un parent avec des enfants. Il faut être juste, il faut être équitable avec nos enfants. Hein, si on commence à favoriser un et pas l'autre, ben, il va y avoir des grands conflits et des difficultés. Ben, au niveau du travail, c'est pareil. Alors bien sûr, il y a des récompenses pour le travail bien fait, mais dans l'équitabilité. Il y a l'équitabilité. Pourquoi doit-il être équitable ? Ben, c'est ce qu'il dit encore au verset 1. « Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Petite phrase intéressante. Rappelez-vous, maître chrétien, patron chrétien, que votre Dieu est le même Dieu que celui de votre serviteur et que vous aussi, vous avez un maître Dieu. En fait, vous êtes les deux esclaves. Toi, tu es esclave à Dieu et ton esclave, mais aussi esclave de Dieu. Vous êtes les deux esclaves. Et de te rappeler de cela va créer une grande humilité. De bien traiter celui qui est co-esclave avec toi. Vous êtes spirituellement égaux en Christ. Donc traite ceux qui travaillent pour toi de la même manière que Christ traite toi en tant que son esclave. C'est beau, non ? C'est intéressant, Job, lorsqu'il était dans l'épreuve, à un moment donné, il examinait sa vie pour se dire, est-ce que je fais une gaffe quelque part ? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie ? Est-ce que c'est pour ça que Dieu est en train de me donner ce monstre châtiment ? Job 31.13, quelques petits versets, il analyse sa vie et il dit, Job 31.13, « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève ? Qu'ai-je à répondre quand il châtie ? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés ? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ? » Il dit, voilà, est-ce que j'ai maltraité mon serviteur ou ma servante ? Et ensuite, il se dit, je dois faire attention parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. On est égaux devant Dieu. Donc, je dois traiter ceux qui travaillent pour moi avec dignité. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, le maître chrétien doit être juste envers ses employés, il doit être équitable envers ses employés. Trois, il doit s'abstenir de menaces à ses employés. Là, on est dans Éphésiens 6, 9. où il dit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et le même dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. » La meilleure manière de faire travailler un serviteur, écoutez bien, n'est pas en le menaçant, mais en le traitant avec dignité, avec justice, avec équité, et en le félicitant pour son travail bien fait. Il peut y avoir aussi une punition juste pour un travail mal fait. En fait, maître chrétien, que ton oui soit oui et que ton non soit non, il n'y a pas besoin de menacer. Il faut être clair dans les directives, c'est tout. Il faut être clair, pas menacer. Il faut être clair. Et pourquoi ne faut-il pas menacer? Mais c'est ce qu'il dit, sachant que leur maître est votre maître et dans les cieux. Vous avez le même maître dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Vous êtes égaux devant Dieu. Même si vous avez des rôles différents, vous êtes égaux. Ceci mène au quatrième point, 1 Pierre 2, 18, vous êtes un employeur, 1 Pierre 2, 18 dit ceci, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Je pense qu'on peut conclure qu'en tant qu'employeur ou maître chrétien, on devrait être bon. Bon, ça veut dire quoi être bon? Ça veut dire bon, plaisant, agréable, considéré. Le contraire, c'est méchant. Ne soyez pas méchant, soyez bon, soyez sympa. Sympa, souriez. Et cinq, il doit être doux envers ses employés. Doux, ça veut dire quoi? Ben, patient, modéré, l'opposé de dur. Ne soyez pas dur. Il peut y avoir des cas de réprimande, ok, mais on peut être clair, réprimandé, avec douceur. C'est possible. Et sixièmement, il faut être gentil envers ses employés, il dit, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alors il est en train de dire, voilà, il y a des employeurs, il y a des maîtres qui ont des caractères difficiles. Alors, je prends l'opposé, je me dis, bon, en tant que chrétien, peut-être, nous, on ne devrait pas être difficile, on devrait être plutôt gentil. Hein? Je pense que c'est la logique de la chose. C'est intéressant, le mot de caractère difficile, en grec, c'est le mot scoliose. Scoliose qui veut dire tordu. Il dit, ne soyez pas tordu, ne soyez pas injuste, ne soyez pas méchant, dévié, sinueux, tortueux. Non, ne soyez pas difficile, soyez gentil. D'accord? Gentil. C'est vraiment le message des listes aujourd'hui. Hein. Écoutez, je conclue. C'est la rentrée. C'est le retour au travail. Comment faire face? Alors, je pense que pour faire face, il faut comprendre bibliquement trois choses. La perspective du Créateur sur le travail, ça nous l'avons vu. La perspective du travailleur, ça nous l'avons vu. Et la perspective de l'employeur. Et ça, nous l'avons vu. Alors, vous avez un choix aujourd'hui. Il y en a deux. Vous décidez d'obéir ou pas obéir, n'est-ce pas? On est face à ce choix. Les directives de Dieu sont claires. On fait ou on ne fait pas? Alors, laissez-moi vous encourager avec deux, trois versets juste pour terminer. Deutéronome 11, 27. La bénédiction... Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris en ce jour sera la vôtre. C'est intéressant. Celui qui obéit à la parole de Dieu sera béni. Dieu bénit toujours l'obéissance. Toujours. Il vous bénira si tu décides d'obéir. Dans Luc 11, nous avons la même idée. Dans Luc 11, 28, nous lisons, Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc tu l'as écouté ce matin, c'est un choix. Vas-tu la garder ? Si tu la gardes, tu seras heureux, ce que la Bible dit. Et Jacques 1:25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est beau, je trouve. C'est beau. Si tu es ici ce matin et tu connais Christ personnellement, toi, tu as la puissance du Seigneur de pouvoir obéir ces choses. Et si tu le fais, il va te bénir et tu seras heureux. Si tu es non-chrétien ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, tu peux essayer de garder la liste. Tu arriveras peut-être pendant un temps, une partie, mais je crois qu'avec le temps, tu vas te décourager. Pourquoi ? Parce que sans un nouveau cœur, sans une régénération par Christ, sans avoir compris d'où la puissance vient d'obéir ces choses, vient de Jésus-Christ, ça va être vraiment difficile et tu vas te décourager. Donc avant de rentrer chez toi aujourd'hui, te dire, voilà, moi je vais commencer à appliquer tous ces trucs, bon, tu peux. Je te dirais, dans le chant que nous allons chanter maintenant, ce serait l'occasion de dire, tu sais, Jésus-Christ, moi, je ne suis pas comme ça, mais je veux être comme ça. Aujourd'hui, je te demande, pardonne mon péché, transforme mon cœur et aide-moi au niveau déjà du travail de devenir un employé comme ça ou un patron comme ça. Inclinons-nous et je vais inviter la louange à venir pour un dernier chant. D'accord ? Seigneur, merci de tout cœur pour ce que tu nous as appris ce matin dans ta parole. Seigneur, quelle précision. Seigneur, il y a beaucoup. Mais en même temps, on voit que pour nous qui te connaissons, ça vient du cœur. Ce sont des choses naturelles. Elles sonnent justes. Seigneur, nous voulons être un peuple soumis à toi. Nous voulons être révolutionnaires dans la société dans laquelle nous vivons. Aide-nous, Seigneur, demain matin, à voir ta perspective sur le travail. Y aller avec joie. Et Seigneur, te voir agir là où nous sommes. Je te remercie pour toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ.
Chevauchant la lune, brillant brillante comme le soleil.